Chapitre 20e. Henriette revint après 10 jours d'absence. Éloi l'attendait à la gare. Il monta dans la voiture, encombrée de paquets et de cartons, qui mena directement à la première chez Madame Clémence, et à la porte il recommanda « Dépêche-toi, petite. Le dîner chauffe déjà chez la mère Logeret. Antoine m'a promis d'être là pour 7 heures. Nous serons 3. Depuis si longtemps, nous n'étions que 2. » Il s'inquiétait de cette rencontre. Mais la confiance dominait. Il pensait « Antoine n'a pas demandé mieux. Presque tout de suite, il a bien voulu. Là, j'arrive. Le voilà pris pour le service. Et le service, même de loin, ça change les jeunes gens. Je me souviens, 2 mois avant de partir, je ne songeais plus à autre chose. » La mère Logeret avait préparé, d'après des recettes jalousement gardées, un ragoût de poulet qu'elle apporta fumant dans une casserole de terre à couvercle. L'escalier sentait le romarin, le clou de girofle et le beurre fondu, quand Henriette arriva, dès 6h30, avec une gerbe de fleurs sur le bras. « Je suis passée devant le magasin de Madame Aiglot, » dit-elle, « et ma foi, j'ai trouvé que je ne pouvais pas ne pas avoir de fleurs à mon dîner de première, sont-elles jolies ?» Elle prit une corbeille de porcelaine, disposa ses fleurs d'automne parmi les feuilles retombantes d'une fougère toute menue, encore humide de la moiteur des bois. Elle posa la corbeille sur la table, à côté de la lampe à colonne, coiffée du bel abat-jour crème, qui réjouissait toute la chambre du vieux Madiot. Puis, dans sa chambre de jeune fille, elle alla essuyer et disposer sur le guéridon les tasses à thé, la théière et le sucrier à filet bleu dont on ne se servait jamais. Antoine entra, sans embarras apparent, avec le petit rire ambigu qu'il avait presque toujours, et son regard fuyant, qui se détournait des gens pour errer sur les choses. « Tiens, dit-il, votre chambre n'a guère changé, oncle Madiot. Vous n'êtes pas dans le mouvement, on voit ça. Pas même un bout d'affiche. Chez nous, les ajusteurs, tout le monde a sa petite chromo. » Henriette apparaissait sur le seuil de sa chambre. Il prit la main qu'elle lui tendait, mais il ne la serra qu'à peine, si froidement. La main blanche, la main fraternelle, retomba lentement le long de la robe. « Eh bien, Henriette, te voilà donc première. Mes compliments. Presque une bourgeoise. Je parie que ton appartement est mieux décoré que celui du père Madiot. » Il s'avança, passa la tête dans l'ouverture de la porte. « En effet, tu en as du luxe. Des vases, des tableaux, des dentelles, un fauteuil. Autrefois, j'ai connu une petite apprentie qui se couchait à tâtons pour économiser la bougie. Une voix tout près, qui se faisait basse pour n'être entendue que de lui, murmura. « Et moi, j'ai connu autrefois un frère qui m'aimait. » « Ne parlons pas de cela, » répondit-il sèchement. Il se détourna aussitôt vers l'oncle qui l'invitait à se mettre à table. Henriette le suivit, songeant. « Ce sera donc toujours ainsi, toujours. » Et elle se demandait. « De quoi allons-nous pouvoir causer maintenant, sans le fâcher ?» La conversation s'engagea cependant, presque facile et presque gaie. L'oncle Madiot, sans être un modèle de diplomatie, écartait les sujets qui touchaient au passé. Autour de cette table, où, pour la première fois depuis si longtemps, la famille était groupée, le nom de la mère ne fut pas prononcé. Les années d'enfance furent volontairement oubliées. On causa des faits divers des journaux, des histoires qui couraient la bile. On divagua à propos de politique générale et des grèves récentes. Le vieil Éloi riait par moments. Le vin des coteaux produisait sur lui son effet d'excitation joviale. Mais le neveu s'observait, plaisantait, souriait à peine et ne buvait pas. À la fin seulement, l'oncle Madiot remplit presque de force les 3 verres, et levant le sien, « À ta santé, Antoine, car c'est dans 6 semaines, la caserne. » L'ouvrier perdit aussitôt l'expression indifférente qu'il avait eue jusque-là, mordit ses joues creuses et dit gravement « Oui, je vais partir pour mon malheur. »« Comme tu dis ça ?» dit Henriette en s'écartant pour desservir la table. « Que crains-tu ?» Elle essaya de rire et ajouta « De manquer d'argent, je suis sûr. Tu sais cependant que je n'oublierai pas le soldat, maintenant surtout que je suis première. » Il était venu en grande partie pour ne pas risquer de tarir par un refus, cette unique ressource qui lui restait, et aussi, pour une autre raison, une espèce de terreur obscure, folle, instinctive contre les peurs superstitieuses de ses ancêtres. et qui lui fit répondre « Sans doute, mais c'est tout de même un grand malheur, parce qu'on ne sait jamais si on reviendra. » « Cette question, dit en riant le vieux soldat, mais dans 2 ans, mon garçon, et pas même, voilà-t-il de quoi te faire du tourment ?» Antoine se taisait. « Mais regarde-moi donc, reprit l'oncle, il a passé 14 ans au service, ce bonhomme-là. » Et il élargissait les épaules, et il tordait de sa bonne main sa grosse moustache indocile. Le jeune homme regarda, en effet, mais d'un air de mépris, il haussa les épaules. « Vous étiez un naïf, père Madio. À savoir, dit le vieux, dont le visage devint rude. Ils vous ont fait trotter d'un bout de la France à l'autre pendant 7 ans, et puis dehors jusqu'en Crimée, où ils ont voulu. Et vous n'en avez pas eu assez, vous avez rengagé pour 7 autres années. Parfaitement, et je ne le regrette pas, et même que c'était beau, je t'en réponds. Nos campagnes, Inkermann, le siège, les Anglais avec nous, Palestro, Magenta. » Le petit riposta insolemment. « Je connais. Qu'avez-vous gagné à tout ça ?»« Gagné, gagné. Un sou par jour, n'est-ce pas ?»« J'étais nourri, d'abord. J'avais le tabac, j'avais... » Le vieux s'aperçut au rire blessant d'Antoine qu'il se fourvoyait. Il s'emporta. « Je ne raisonne pas comme toi, Blanc-Bec. J'ai servi avec les camarades, pas pour l'argent, pour l'honneur, pour le plaisir. Soyez donc reconnaissant, si ça vous plaît, oncle Madio. » On vous a pris le meilleur de votre vie. On vous a empêché d'être votre maître, empêché d'avoir un métier, une famille, même une tirelire avec quelque chose dedans. Remerciez-les, ça vous regarde. Mais nous, d'aujourd'hui, nous sommes d'une autre espèce. Ah, je le vois bien, des lâches. Criez, si vous voulez, vous n'y changerez rien. Ceux d'aujourd'hui ne seront pas menés comme vous. Je vous en préviens, bientôt, ça ne prendra plus. Quoi donc, l'armée ? Éloi Madio se dressa tout debout. D'un geste de l'ancien métier subitement retrouvé, il tendit le corps du côté de la porte, comme s'il craignait que quelqu'un entrât. Comme s'il entendait l'adjudant de semaine, vengeur de pareil blasphème. Puis, ses yeux, des yeux terribles de soldat qui va au feu, se plantèrent droit sur le neveu qui reniait l'armée. Il ne parlait pas, mais ses yeux parlaient pour lui. À travers la table, entre lui et le misérable gamin, ses 14 années de caserne et de guerre se précipitaient en torrents d'images confuses. Des figures de camarades en rang, l'arme à l'épaule, des officiers qu'il avait aimés, des musiques sonnant sous des voûtes de cathédrale, des drapeaux flottants, des charges à la baïonnette, des souleries après la victoire, des villes de garnison, des coins de chambrée, l'heure de la soupe, toute la gloire et toute l'insouciance du métier. Cela passait et repassait, troublant l'esprit. C'était l'ancienne armée qui s'incarnait en ce moment dans le vieux soldat. Le peuple d'autrefois qui s'indignait. Tout un passé d'humble bravoure qui se révoltait sous l'injure. L'oncle Madio leva le seul poing qu'il eut encore solide et, frappant la table, « Tais-toi » cria-t-il. « Tais-toi, Antoine, ou je cogne !» Antoine, renversé sur sa chaise, très pâle et toujours maître de lui, haussa de 2 centimètres son museau pointu et dit « Après ?» L'oncle eut l'air de vouloir fondre sur lui, mais Henriette était accourue du fond de la chambre. « Mon oncle, » dit-elle en lui prenant la main, « vous voyez bien qu'Antoine plaisante, laissez-le, je vous en prie. » Elle les regardait attentivement, tremblante entre ces 2 hommes qui se défiaient. Antoine ne changeait pas d'expression et ne baissait pas les yeux, mais le vieux, qui sentait trembler la main d'Henriette dans la sienne, essaya de se maîtriser et d'obéir à la petite. Il dit, la voix encore tout encolérée, « Tu as raison, Henriette, ça lui passera. Quand il sera en uniforme, il faudra bien qu'il obéisse, n'est-ce pas, Antoine ?» Antoine ricana. « Vous ne connaissez pas votre neveu, oncle Madio. S'ils sont gentils avec moi, vos officiers, ça pourra peut-être aller, mais s'ils ne le sont pas... » Il secoua les doigts et les fit claquer les uns contre les autres. « Ah, misère, ils en verront !» Et en disant cela, il avait une expression si étrange qu'Éloi Madio en fut secrètement effrayé. L'ancien l'avait vu à d'autres, ce mauvais regard de breton insolent et buté, à des troupiers qui avaient fini au bataillon d'Afrique. Il se retint de répondre. « Écoute, Antoine, » dit alors Henriette, « je ne comptais pas te le dire, mais, puisque tu te défies de tes officiers, je puis t'assurer qu'il y en aura au moins un qui te protégera plus tôt. Qui donc ? Je suis sûr de l'obtenir. Je lui ferai parler de toi par sa mère. Il n'est qu'officier de réserve, mais il doit passer le mois de janvier dans ton régiment, tu devines ?
Non.
C'est Monsieur Victor le marié.
Cette fois, ce fut Antoine qui se leva.
Tu vas faire ça, Henriette ?
Mais oui.
Pour t'obliger, qu'as-tu donc ?
Elle se reculait devant ce visage blême où la colère éclatait.
Ah, tu veux faire ça ? Eh bien, dis-lui à celui-là de ne pas s'occuper de moi, de ne pas trop m'approcher, de ne pas me commander. Il y aurait des malheurs. Tu entends ? Dis-lui, dis-lui.
Ah, faut-il tout de même ?
Et rapide, enfonçant son chapeau sur sa tête, l'ouvrier traversa la chambre, ouvrit la porte et disparut dans l'escalier. Le vieux Madiot et Henriette, l'un près de l'autre, le long du mur, ne se parlèrent pas pendant un temps. Henriette était stupéfaite et attristée. Mais l'oncle souffrait d'un bien autre mal. Il venait de deviner tout à coup, à cette explosion de fureur, qu'Antoine connaissait quelque chose du passé. Il pensait avec effroi qu'un tel secret était partagé, et par qui ? Il voyait son Henriette en danger, exposée à la vengeance d'un misérable comme Antoine, qui pouvait la torturer et la briser, qui pouvait aussi la dominer par la menace perpétuelle de révéler la honte ancienne et de provoquer un scandale. Devant l'angoisse d'un tel péril, tout le reste s'effaçait. Il oubliait les injures personnelles, les mauvais propos contre l'armée, pour ne retenir qu'une pensée et qu'un tourment. Henriette exposée, Henriette qu'il ne pouvait avertir et qu'il fallait sauver. Sa pauvre raison s'enfiévrait. Il se disait « Dois-je courir après lui ? Est-ce demain ? Est-ce plus tard ? Car je dois l'interroger, me rendre compte de ce qu'il sait, lui défendre de parler. » Lui défendre, hélas, à lui, à Antoine Madiot. Et il creusait ainsi sa peine, immobile, la main cachant le front. Henriette le tira du rêve en disant « Pouvez-vous m'expliquer, vous ? Pourquoi s'est-il emporté ? À qui en veut-il ? Est-ce à moi ou à monsieur le marié ?» L'oncle parut sortir d'une mauvaise nuit. Il fit effort pour cacher son trouble, pour donner un peu de vraisemblance à ce qu'il allait dire. « Ne t'épouvante pas comme ça, ma petite, répondit-il, et remets tout en place. J'aurais dû penser qu'on ne peut raisonner de rien avec Antoine. Tu vois, il est encore monté contre ses le marié, à cause de l'affaire de ma pension. » Henriette le suivit des yeux, pendant qu'il se détournait, et allait s'accouder à la fenêtre. « À présent que tout est accordé, dit-elle, ce serait de la folie. Non, il y a autre chose que nous ne savons pas, mon oncle, une chose plus grave. » Le vieux n'osait plus bouger, de peur d'être obligé de mentir encore. Henriette, cependant, ne lui parlait plus. Elle avait pris un tablier, et dans le coin de la pièce, à l'autre bout, elle s'était mise à laver et à essuyer la vaisselle du dîner. Aucun soin du ménage ne lui coûtait autant, mais ce soir, elle n'y songeait pas. Son esprit s'échappait et se perdait en questions insolubles. Lorsqu'elle eut achevé de ranger la vaisselle dans le buffet de noyer, elle passa dans sa chambre pour donner un coup de brosse à ses cheveux, pour laver et parfumer ses mains, pour reprendre son air de demoiselle de la mode. Puis elle enleva les trois tasses à thé, la belle théière à filet bleu, les chaises et le fauteuil déjà rangés autour du guéridon et qui ne serviraient pas. De l'autre chambre, près de la fenêtre, l'oncle Madiot, rancogné, rendu sauvage par le secret de sa peine, ne cessait de répéter s'il allait la trahir. Henriette se demandait, ne se doutant pas de ce danger, « Qu'y a-t-il donc entre nous ? Pourquoi Antoine était-il si furieux ? Et pourquoi mon oncle ce soir a-t-il l'air de m'oublier ?